Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Yebamot, page 24, Daf Kaf Dalet. Bonne écoute et bon limoud.
Avant de continuer, je vais faire une toute petite préface. Il y a une différence fondamentale entre les deux Mishnah en question. Dans notre Mishnah, on parle de deux sœurs mariées à deux personnes étrangères. Tandis que dans notre Mishnah, on parle de deux sœurs mariées à deux frères. Rappelez-vous de cette différence, c'est sur ça que se base la réponse de la Gemara. Hatam ilmandamar yesh zika yesh zika. Là-bas, dans notre Mishnah, en suivant l'opinion de yesh zika, il y a un lien entre la veuve du défunt et le frère du défunt. Donc, yesh zika, il y a ce lien. C'est-à-dire, nous explique Rashi, au moment où les deux frères sont morts, leur épouse tombe les deux en hiboum devant les deux frères. Et à partir de ce moment-là, il y a au moins un instant où les deux étaient liés aux deux. Et donc, en même temps, les deux étaient incestes. Ils étaient les deux achot kukato. Vis-à-vis de chacun, de chaque frère en vie, chacune est la sœur de celle qui lui est liée. Et ce n'est pas qu'une possibilité, c'est un fait. Chacune est certainement yevama vis-à-vis des deux frères. Et donc, chacune est certainement achot kukato. Je le répète une fois pour toutes, la traduction de cette notion... La sœur de celle qui lui est liée par la zika. Et même qu'on a déjà dit qu'une fois que l'un des frères va faire la khalitsa à l'une des sœurs, cela va démontrer rétroactivement que ce n'était qu'à lui qu'elle était liée. Alors normalement, l'autre sœur aurait dû être permise à l'autre frère. Elle n'est pas la achot kukato. Elle n'est pas la sœur de celle qui lui est liée. L'autre ne lui était pas liée. Étant donné qu'il y avait un instant où elle lui était liée, et l'autre était oui la achot kukato, cela annule le commandement de Yiboum. Une fois qu'il est annulé, il n'est pas renouvelé. Et donc, elle lui est de toute façon inceste, s'il n'y a pas le commandement de Yiboum. Elle est la femme, la veuve de son frère, sans le commandement de Yiboum. Et cela est inceste. C'est pour cela que le Yiboum n'est pas possible, et même s'il a été fait a posteriori, il devrait être annulé. Il faudra pratiquer le divorce. Tandis que dans notre Mishnah, cela est complètement différent. C'est vrai qu'il y avait un instant où elle était la achot kukato, mais même à ce moment-là, elle n'a jamais été concernée par l'interdit d'inceste de Eshet Ach, la femme du frère. De deux choses, l'une. Ou bien elle est la Yevama et sa sœur n'a rien à voir dans l'histoire. Ou bien c'est sa sœur qui est la Yevama et elle est complètement étrangère. Simplement, elle est la Achot Kukwa. Et une fois que ce problème a été réglé, elle n'est plus la Achot Kukwa. Il n'y a aucune raison de ne pas pratiquer avec elle le Yiboum. Ve'il le mando amar asur levatel mitzvat yavmin. Alors asur levatel mitzvat yavmin. Et d'après l'opinion qui ne tient pas compte de la zika, et le raisonnement de l'autre Mishnah et celui-ci, il est interdit de faire en sorte que soit annulé d'une femme la khalitza et le hiboum. Or, si on va permettre le hiboum à l'un des frères, il y a lieu à craindre que l'autre va mourir avant d'avoir fait quoi que ce soit, et donc la deuxième veuve va tomber en hiboum devant celui qui s'est déjà marié avec l'autre sœur, et cela est un inceste, elle est la sœur de sa femme, et donc ça annule la khalitza et le hiboum. Pour éviter cela, on interdit le hiboum. Comme ça, même si un des frères vient à mourir avant d'avoir fait quoi que ce soit, l'autre pourra toujours faire la khalitza. Et donc du coup, on revient au raisonnement précédent. Du moment où il y a une seconde où le hiboum est interdit, ces veuves-là, ces sœurs-là deviennent concernées par l'interdit d'inceste de Esh et Ach. Elles sont les femmes du frère. Sans le commandement du hiboum, c'est un inceste. Et cela ne sert plus à rien de régler le problème initial. L'inceste de Eshet Ach reste toujours valable. Tandis que Acha, dans notre Mishnah, Kol Chad Vechad Emur Dideka Mitrabele. Chacun pourra dire, c'est Maïvama qui est présentée devant moi. Et même si par hasard elle ne l'est pas, alors du coup, elle est la veuve d'un étranger. Et elle n'a jamais été concernée par l'inceste de Eshet Ach. J'avoue que le passage qu'on vient de voir ensemble est assez profond et compliqué. Je ne pense pas que le fait de prolixité dans la cassette sera efficace, ce qu'il faut savoir bien compris la différence entre les deux Mishnayot. Que notre Mishnah parle de deux sœurs mariées à deux personnes étrangères l'une de l'autre, tandis que l'autre Mishnah parle de deux sœurs mariées à deux frères. Nous continuons l'explication de la Mishnah. Kadmo vekansu en motim vechule. Si avant de consulter le tribunal, ils ont épousé les deux sœurs, on ne va pas les forcer à divorcer. La Gemara se rapporte sur la fin de la Mishnah. Je rappelle rapidement le cas. Reuven et Shimon, deux personnes étrangères l'une de l'autre, sont mariées à deux sœurs, à Rachel et à Léa. On ne sait pas qui avec qui. Reuben est mort en laissant deux frères, David et Shaoul. Shimon est mort en laissant deux frères, Claude et Jacques. C'est écrit à la fin de la Mishnah. Si les deux frères de Reuben, David et Shaoul, ont fait la Khalitsa par bêtise aux deux veuves, et après cela, les deux frères de Shimon, Claude et Jacques, ont fait le hiboum à ces deux veuves, on ne va pas les forcer à divorcer. Tani Shila. Voici ce qui est écrit dans la Braïta que nous rapportait Shila. Ve'afilu shneim kohanim. Même si Claude et Jacques sont des kohanim. Normalement, le kohen a un interdit de se marier avec une femme qui a subi la Khalitsa. Or, il est certain qu'une des deux sœurs, ou Rachel ou Léa, est la veuve de Reuven, et donc a subi la Khalitsa de David ou Shaoul. Donc il est certain que c'est ou Claude ou Jacques qui ont fait le hiboum, qui ont épousé une sœur, une veuve, qui a subi une Khalitsa certaine. Quand même, il n'est pas demandé à la divorcer. Maïtama, pour quelle raison? Khalutsa de Rabanani. Mais ça fait Khalutsa le gazrobo Rabanan. L'interdit que le Kohen a épousé une femme qui a subi la Khalitsa n'est pas un interdit établi par la Torah, mais que par Rabbanan, par nos sages. Or, Rabbanan l'ont décrété que dans un cas certain, et non pas dans un cas douteux. Étant donné qu'on ne sait pas qui est la veuve de Reuven, donc on a un doute, qui est la veuve qui a subi la véritable Khalitsa. Et puisque cela est douteux, Rabbanan n'ont pas décrété leur interdit. Demande la Gemara de Khalutsa de Rabbanani. Est-ce qu'il est vrai que l'interdit de la Khalutsa, de la femme qui a subi la Khalitsa vis-à-vis de Kohen, n'est qu'un interdit établi par Rabbanan? Vatania, on a pris dans la Braïta, Groucha, c'est écrit dans le verset à propos des Kohanim, Veisha, Groucha, Meisha, Loikahu. Et une femme divorcée par son mari, ils ne l'épouseront point. Alors on dit la Braïta, Enli la Groucha, Khalutsa Minaïn, on ne voit cet interdit qu'à propos de la divorcée, d'où est-ce qu'on le saura à propos de celle qui a subi la Khalitsa? Talmud Lomar, Veisha. C'est pour ça que le verset n'a pas écrit Isha Groucha, une femme divorcée, mais plutôt Veisha Groucha, et une femme divorcée. Le Vav vient inclure la femme qui a subi la Khalitsa. Donc on voit que même la Khalutsa est interdite par la Torah, et non pas que par Rabbanan. Répond la Gemara, non, Midrabananu. En fait, le décret est de Rabbanan. Vekra Asmarta Be'almaou. Et le commentaire qu'on a fait du verset n'était qu'une simple référence, mais pas un vrai commentaire. Et c'est ici qu'on finit le cours de Daf Yomi du Daf Kaf Gimel. Maintenant, par la nouvelle Mishnah, on va commencer le cours de Daf Yomi du Daf Kaf Daled. Nous dit la Mishnah, Mitzvah Begadol Yabem, Vim Kadam Akatan, Zaha. De préférence, la Mitzvah est que ce soit le grand frère du défunt qui fasse le Yiboum. Et si c'est le petit frère qui l'a devancé, son acte est valable, elle devient sa femme. Tanoura Banal, on a pris dans la Braïta. C'est écrit dans le verset, Vaya Apror. Je lis dans la section ce qui nous concerne. Yevama yavo alea ulkachalo leisha veidma. Vaya apro rachateled yakum alchem achiv amet. Et le yavam la prendra donc pour femme, exerçant le hiboum à son égard. Et le premier fils qu'elle enfantera sera désigné par le nom du frère mort. Alors nous dit la Braïta, pour faire le commentaire suivant, on va lire le verset d'une façon différente. Ulkachalo leisha veidma vaya apro. Et il la prendra donc pour femme, exerçant le hiboum à son égard. Le premier fils. Mikan shemitzvah begadol yabem. Donc c'est le premier fils qui la prendra pour femme, qui fera le hiboum. De là on apprend que de préférence, c'est le grand frère du défunt qui va exercer le hiboum. On avait lu dans le verset Asher Teled, Vaya Apro Asher Teled, et le premier fils qu'elle enfantera. De là on apprend Prat Lailonit, Shein Yoledet. La Ailonit, la femme stérile, n'est pas concernée par le hiboum, étant donné qu'elle ne peut pas enfanter. La suite du verset Yakum Al Shemachiv. Et le premier fils qu'elle enfantera sera désigné par le nom du frère mort. Et quelle est la signification du mot sera désigné, Yakum? Nous dit la Braïta, le Nachala, pour l'héritage. Et ce qui est écrit Yakum sera désigné ne se rapporte pas sur le premier fils, mais sur le Yavam, sur celui qui a exercé le Yiboum sur le Yavama. Et c'est lui qui va remplacer son frère mort, c'est-à-dire c'est lui qui va l'hériter. Demande la Braïta à Tomer le Nachala, toi tu me dis que c'est pour l'héritage, Oeno Eda le Shem. Peut-être que ce n'est que pour le nom, et ça se rapporte effectivement sur le premier fils. Yosef, Korimoto Yosef. Si le défunt était appelé Yosef, on appellera le premier fils Yosef. Yohanan, Korimoto Yohanan. Si le défunt était appelé Yohanan, on appellera le premier fils Yohanan. Répond la Braïta. Neymar Khan, Yakum Al-Shemachiv. C'est écrit ici, sera désigné par le nom du frère mort. Venemar Lohalan, c'est écrit ailleurs. Al-Shem Achem, Ika Ubenachalatam. Et ils seront désignés du nom de leur frère à l'égard de leur héritage. De même que la désignation de ce verset concernait l'héritage, pareil la désignation de ce verset-là. La suite du verset, Veloyemacheshmo, afin que son nom, que le nom du défunt, ne soit pas effacé. Prat le saris, Sheshmo Machouy. Cela vient exclure la veuve de l'eunuque, étant donné que son nom est de toute façon effacé, et donc sa veuve est dispensée du hiboum. Amar Rava, nous apprend Rava. Afalgav de Bochala Torah Kula, en mikra yotse midepsuto. Même qu'à propos de tous les versets de la Torah, ils doivent être compris au sens littéral, quand même, Hacha Atai Xera Shava, Afikte Mipashte le Gamre. Dans notre cas est venu l'attribut de la Xera Shava, de l'analogie, et a complètement sorti notre verset de son sens littéral. On a vu dans notre verset, Vaya Apro Racher Teled, Yakum Alchem Achiv Hamet, pour l'interpréter au sens littéral, voici la signification. Le verset se rapporte sur le premier fils que la Yevama enfantera après s'être marié au Yavam, au frère du défunt. Et donc le verset nous demande, et le premier fils qu'elle enfantera sera désigné par le nom du frère mort. C'est-à-dire, il sera appelé au nom du frère mort. Si le défunt est appelé Yosef, on appellera le premier fils Yosef. Tandis que, à cause de l'analogie, d'où on a appris que le mot Yakoum sera désigné, se rapporte sur l'héritage, cela va bouleverser complètement la signification de tout le verset. Et on ne pourra plus lui faire suivre son sens littéral. On va dire que le premier mot, Ve'ayah Abchor, se rapporte sur le verset d'avant. C'est le premier fils du père du défunt, donc le plus grand frère du défunt, qui de préférence fera le hiboum. La suite du verset, Asher Teled, il ne le fera qu'à une veuve qui est capable d'enfanter. Ça exclut la femme stérile. Yakum Alchem Achivamet, et c'est lui qui a fait le hiboum, qui sera désigné pour l'héritage de son frère, le défunt. Nous dit la Gemara, Ve'ilav Gzera Shava Rava Amina Shem Shem Mamash. En suivant les paroles de Rava, on comprend que sans la Gzera Shava, sans l'analogie, on aurait compris le verset au sens littéral. Le verset demande de nommer le premier fils que va enfanter la Yevama au nom que portait le défunt. Comment est-ce possible? Le man kamazher rachmana, à qui la Torah le demande? Le Yavam. Si tu vas me dire que la Torah le demande au Yavam, au frère qui a épousé la Yevama, Yakum alchem achicham ibaele. Étant donné que le verset s'adresse directement au frère du défunt, pourquoi il s'exprime à la troisième personne? Il aurait dû s'exprimer à la deuxième personne, et ne pas dire Alchem Achiv, au nom de son frère, mais plutôt Alchem Achicha, au nom de ton frère. Il le bet dina, et si le verset s'adresse au tribunal, Yakum Alchem Achiaviv mi ba'ele. Le verset n'aurait pas dû dire au nom de son frère, d'où il s'entend au nom du frère du premier fils, mais plutôt au nom du frère de son père. Son père c'est le Yavam, et le frère de son père c'est le défunt. Donc même sans l'analogie, il n'est pas possible de faire suivre le verset son sens littéral. Répond la Gemara, Vedilma Achika Amar le Rochman al Beddin. Peut-être que le verset s'est adressé au tribunal, et voici ce qu'il lui a dit. Amrou le Yavam, Yakum al Shamachiv. Commandez au Yavam de nommer son premier fils au nom de son frère, le défunt. Ela Ataik Zerashava Apikte le Gamre. Donc ce n'est que à cause de l'analogie que le verset est complètement sorti de son sens littéral. Demande la Gemara une nouvelle question. Maintenant que tu m'as convaincu que le verset s'adresse au premier fils et lui demande à lui de faire le hiboum, peut-être que ce sera que lui, que le Bechor, qui sera concerné par le hiboum et non pas les autres frères. Répond la Gemara, on a déjà vu le commentaire du verset de Kieshvu Achim Yardav, quand seront installés des frères ensemble, pour nous exclure que ce n'est que les frères qui étaient du même monde qui sont concernés par le hiboum, et non pas le frère qui n'était pas du même monde que le défunt. Il n'est né qu'après la mort de son frère. Or, si notre supposition est juste, que ce n'est que le premier-né qui est concerné par le hiboum, cette exclusion est superflue. Il n'est pas possible que le premier-né, que son frère plus jeune que lui, c'est-à-dire, il n'est pas possible que le premier-né soit né après la mort de son frère plus jeune. Répond la Gemara, pourquoi pas? Pari Ravacha, objecte à cela Ravacha, Vema limute buchra de ime. Ce frère est un bechor, est un premier-né, à la mère et pas au père. Il n'est pas du même monde que son frère, il est né après la mort de son frère, mais c'est quand même le premier-né de sa mère. Alors sans l'exclusion, j'aurais dit qu'il est concerné par le hiboum. il est le frère du défunt et il est premier-né. C'est pour cela que le verset doit l'exclure, pour la cause qu'il n'était pas du même monde que son frère. Mais on pourrait toujours dire que ce n'est que les premiers-nés qui sont concernés par le Yiboum. Et pour la Gemara, non. Ha'ou le moitié tamart. Celui-là, tu ne peux pas le dire. De Yiboum, v'nachalat ala rahmana. V'nachala mina'af velo mina'em. Le verset a fait dépendre le Yiboum de l'héritage. L'héritage n'existe que vis-à-vis de la famille paternelle et non pas la famille maternelle. Et donc forcément, l'aîné en question, c'est le premier-né du père et non pas de la mère. Et donc, on reprend la réponse initiale. Il n'est pas possible de dire que ce n'est que l'aîné qui est concerné par le Yiboum, car en effet, il ne serait plus la peine d'exclure le frère qui n'était pas du même monde. Cela n'est pas possible que ce frère-là soit l'aîné. Demande la Gemara une nouvelle question. Peut-être qu'on va dire, si dans cette famille, il y a un aîné, alors pourra s'accomplir le commandement du Yiboum, que ce soit de l'aîné ou d'un autre frère. Et en effet, dans ce cas-là, le verset a dû quand même exclure le frère qui est né après la mort du défunt. Mais au cas où il n'y a pas d'aîné, alors peut-être qu'il ne pourra pas s'accomplir le commandement du Yiboum. Répond la Gemara à Marcra, c'est écrit dans le verset, « Umet echad mehem » quand seront installés ensemble des frères, et que l'un d'eux vienne à mourir, etc., il faudra pratiquer le Yiboum. « Milo askinan de met bechor, bama rachmana le yabem katan » Est-ce qu'on ne parle pas du cas où c'est l'aîné qui est mort, et donc il n'y a plus d'aîné? Et quand même, le verset a demandé au petit frère de faire le Yiboum. Dit la Gemara, non, cela n'est pas convaincant. Vema de mit katan, bama rachmana le yabem bechor. Peut-être que le verset ne parle que du cas où c'est le petit qui est mort, et le verset n'a demandé qu'à l'aîné de faire le Yiboum. Répond la Gemara la même chose qu'avant. Hamiyat rachmana shatachesh la beolamo. Étant donné que le verset a dû exclure la femme du frère qui n'était pas du même monde, forcément le défunt n'est pas seulement le petit frère. Si ce n'est que le petit frère, il n'est pas possible que son grand frère soit né qu'après sa mort. Demande la Gemara une autre question. Vema ki le kapro kadam katan zaha, vei kapro kadam katan ozaha. D'accord, je suis convaincu. Même s'il n'y a pas d'aîné, on va pratiquer le Yiboum. Mais peut-être qu'on va dire la chose suivante. S'il n'y a pas d'aîné, alors il n'y a pas de préférence. Et c'est le plus rapide qui aura fait le Yiboum, qui l'aura emporté. Mais dans le cas où il y a un aîné, alors ce n'est que lui qui pourra faire le Yiboum. Et si le petit l'a devancé, ça ne lui sert à rien, le Yiboum n'est pas valable, il devra être refait par l'aîné. Répond la Gemara à Marcra, c'est écrit dans le verset, « Ki yeshvu achim yerdav » quand seront installés des frères ensemble. Huksha yeshivat achim zelazé. Tous les frères ont été comparés l'un à l'autre. Et donc, il n'y aura aucun cas où ce n'est qu'un frère qui sera concerné par le Yiboum. Ils seront toujours tous concernés par le Yiboum. Demande la Gemara encore une question. Vema, qui kapror liad ragadol, qui les kapror en chosrim et el gadol? Peut-être qu'au cas où il y a un aîné, ce n'est qu'alors qu'il y a une préférence. Et on va essayer de convaincre le bechor, l'aîné, de pratiquer le Yiboum. Et ce n'est qu'a posteriori qu'on le demandera aux autres frères. Mais au cas où il n'y a pas d'aîné, il n'y aura pas de préférence. On ne s'adressera pas plus au grand frère qu'à un autre. Alma tani abaye shisha. Et pourtant, on a vu dans la braïta que nous enseignait Abaye le vieux. Mitzvah begadol yabem. De préférence, c'est le grand qui pratiquera le Yiboum. Loratza holchim etzel achiv katan. Et s'il n'a pas envie, alors on ira voir chez son petit frère. Pourquoi l'auteur de la braïta a écrit etzel achiv katan chez son petit frère? Il aurait dû écrire etzel akatan. On ira voir chez le petit. Qu'est-ce que ça veut dire chez son petit frère? Ça veut dire on ira voir chez le deuxième frère. Le petit frère de l'aîné, mais le plus grand par rapport aux autres. Donc on voit que même au cas où le Yiboum avec l'aîné n'est pas envisageable, on va quand même chercher à le faire avec le plus grand. On termine la braïta. Loratza chozrim etzel gadol. Et si le petit n'a non plus pas envie de faire le Yiboum, on retournera chez le grand. Répond la Gemara qui pror. Ma pror prorato garmalo. Av gadol dulato garmalo. On va apprendre le deuxième de l'aîné. De même que l'aîné est privilégié, car il est le bechor, le plus grand, le premier-né. Pareil, le deuxième sera privilégié, car à présent, c'est lui le plus grand. Demande la Gemara une nouvelle question. Le verset qui a dit « Yakum al shemachiv » sera désigné, et comme on l'a expliqué, sera désigné pour l'héritage au nom de son frère. Ce verset s'adressait à l'aîné. Et le premier fils sera désigné par le nom de son frère mort. Donc si c'est le Bechor qui a fait le Yiboum, alors c'est lui qui héritera le défunt. Mais si c'est un frère simple qui a fait le hiboum, il ne sera pas privilégié pour l'héritage du défunt. Répond la Gemara Amakra Yakum al Shemachiv, Varekam. Étant donné que le verset a dit Yakum al Shemachiv, l'héritage concerne celui qui remplace le défunt, et celui-là l'a remplacé. Donc c'est n'importe quel frère qui a pratiqué le hiboum, qui a remplacé le défunt, qui sera privilégié pour l'héritage. Demande la Gemara Velapror de Kerer Achmana le Maïl Cheta. Alors puisqu'il n'y a aucune différence entre l'aîné et les autres, pourquoi le verset a mentionné l'aîné, le Bechor?
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
On a tourné la page et on est Kaf Dalet Amoud Bet. Répond la Gemara, Ligri Uta. Mapror Elonotel Barauk Bemurzak, Afhaï Elonotel Barauk Bemurzak. Cela vient pour défavoriser d'une certaine manière le privilège de l'héritage. Et on apprend d'ici que le frère qui a pratiqué le hiboum et qui va hériter seul le défunt ne sera pas plus fort que le Bechor. On a vu ailleurs dans la Torah, à propos de l'héritage du père, cet héritage sera partagé à part égale entre tous les frères. À part le Bechor, à part l'aîné, lui aura droit à une double part. Mais que à propos des biens présents. Mais ce que le père n'avait pas sous sa main au moment de sa mort, ce qui était hypothéqué, ou bien prêté, ou investi, ce qui devait venir, mais n'était pas sous la main du père au moment de sa mort, à propos de cela, l'aîné n'aura pas droit à double part. Et donc, nous répond la Gemara ici, le Yavam, celui qui a épousé la veuve du défunt, qui sera le seul à hériter le défunt, ne sera pas en meilleure posture que le Bechor. De même que l'aîné n'a droit à double part que dans ce qui est présent et non pas dans ce qui est investi, c'est pareil pour le Havam. Tous les biens du défunt qui ne sont pas sous sa main au moment de sa mort seront partagés à part égale et le Havam n'y sera pas privilégié. On commence la prochaine Mishnah. Hanitan al-Shifra venishtachera, une personne sur laquelle circulent des rumeurs qu'il a eu des relations avec une esclave et après cela elle a été affranchie. Ou bien qu'il a eu une relation avec une non-juive et après cela, elle s'est convertie. Il ne doit pas l'épouser. Mais si il l'a épousée, on ne pourra pas le forcer à divorcer. Celui sur qui circulent des rumeurs d'adultère, et à cause de ces rumeurs, le tribunal l'a fait divorcer de son mari. Et la personne sur qui circulaient ces rumeurs l'a épousée, a falpeché kanas yotzi. Même qu'il l'a épousée, il devra la divorcer. On commence la Gemara. Hagiura miavia. Néanmoins, la conversion est valable. Urmini, on a trouvé une braïta contradictoire. Echad ish shenet gayer le shum isha. Vechad isha shenet gayer le shum ish. Que ce soit un homme qui s'est converti pour épouser une certaine femme. Ou une femme qui s'est convertie pour épouser un certain homme. De même, celui qui s'est converti pour avoir droit à un festin royal. Ou bien le Shum Avde Shlomo. Ou bien pour avoir droit à servir le roi Shlomo. Enam Gerim. La conversion n'est pas valable. Ils ne sont pas convertis. Divrei Rav Nechemia. Telle est l'opinion de Rav Nechemia. Shehaya Rabbi Nechemia Omer. Car nous enseignait Rabbi Nechemia, Echad Gire Arayot, Vechad Gire Chalomot, Vechad Gire Mordechai Vester, Enam Gerim. Que ce soit ceux qui se sont convertis par crainte des lions, comme on le trouve dans le deuxième livre des rois, au chapitre 17, ou ceux qui se sont convertis par suite d'un rêve, ou bien ceux qui se sont convertis au temps de Mordechai et Esther, c'est-à-dire par crainte des juifs, comme on le voit dans la Megillat Esther, au chapitre 8, verset 17, à propos de tout cela, la conversion n'est pas valable. Achid Gairou, Bismanazé. Jusqu'à qu'ils se convertissent en ce moment-là. Demande la Gemara Bismanazé Zakadatar. Est-ce que tous les convertis d'avant l'époque de Rav Nechemia ne sont pas convertis? Est-il possible de dire ainsi que ce n'est que les convertis à partir du temps de Rav Nechemia qui sont convertis? Et la Ema, que Bismanazé? Alors il faudra dire que Bismanazé. Comme à ce moment-là, comme à l'époque de Rav Nechemia, qui était une époque où les juifs n'étaient ni craints, ni respectés, ni enviés. Et donc celui qui se convertit, le fait d'une manière désintéressée. Pareil, tout converti qui l'a fait d'une manière désintéressée, sa conversion est valable et sinon elle ne l'est pas. Alors on ne comprend pas pourquoi la conversion de la Mishnah est valable. Répond la Gemara, il nous a été enseigné à propos de cette braïta par Rav Yitzhak, le fils de Shmuel, le fils de Martha, et au nom de Rav, Halacha kedivrei Omer, kulam gerimem. La halacha n'est pas comme Rav Nechemia, mais d'après la halacha, dans tous les cas, la conversion est valable. Demande la Gemara, Iyachi le Khatrilanami. Si il en est ainsi, pourquoi la Mishnah n'a pas permis le mariage a priori? Répond la Gemara, Mishum de Ravasi. À cause de l'enseignement de Ravasi. D'Ama Ravasi, car on nous disait Ravasi, c'est à propos de cela que nous dit le verset, Hasamimcha ikshutpe velazut fataim vegomer. Écarte de toi toute parole tortueuse et éloigne de toi tout langage pervers. C'est pour cela que la personne sur qui circulaient les rumeurs qu'il a eu des rapports avec l'esclave ou la non-juive, a priori ne devra pas épouser ses femmes, car il renforce les rumeurs qu'il y a eu sur son compte. Tanu Rabbanan, on a appris dans la Braïta. En mekablim gerim limot hamashiach. Au temps du Messie, on n'acceptera plus les convertis. Kayot sebo, lokiblu gerim, lobime David, velobime Shlomo. De même genre, on n'a pas accepté de convertis ni au temps de David et ni au temps de Shlomo. Amar Rabbi Eliezer, Maïkra, nous dit Rabbi Eliezer, quelle référence y a-t-il à cela? On a vu dans le verset, Hen gor yagur efes meoti migar itach alaichipol. Hen gor, oui, celui qui veut participer à mon peuple, celui qui veut se convertir. Yagur efes meoti. Il devra venir, il devra se convertir. Tant que moi, Hachem, je ne suis pas là. Tant que le peuple d'Israël est dans sa pauvreté. Migar itach, celui qui t'a rejoint, celui qui a rejoint le peuple d'Israël à ce moment-là, Alaïchipol, c'est lui qui s'étendra sur toi, qui fera partie intégrale avec toi. Déduit Rabbi Eliezer, Aval Idach lo, mais les autres convertis, ceux qui ne sont pas venus au moment de ta pauvreté, mais au temps du Messie ou de David ou de Shlomo, ne s'étendront pas sur toi, ne feront pas partie intégrale, mais seront éjectés. Nous reprenons le passage de la Mishnah. Hanitam aleshetish vechule. Celui sur qui circulent des rumeurs qu'il a pratiqué avec la femme de son conjoint de l'adultère, et qu'il l'a épousée après son divorce, il devra lui aussi le divorcer. Amar Rav ou Beedim. Nous dit Rav, quand est-ce qu'il devra la divorcer? Qu'à condition qu'il y ait des témoins qui certifient les rumeurs. Amar Rav Shachet, Adir Rav Shachet. Amina, ki naim v'shachiv Rav amar le haishmatata. Je me suis dit, c'est sans doute quand Rav somnolé qu'il a dit cet enseignement. Sinon, il n'aurait pas dit une telle chose. De Tania, car on a pris dans la Braïta. Hanitam aleshetish, votsiwa aliado, venez garcha mitachatede acher, imkanas leotsi. Une personne sur qui circulaient des rumeurs, qu'il a pratiqué de l'adultère avec la femme de Reuven. Alors Reuven a divorcé de sa femme. Et elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, disons Shimon. Et après cela, Shimon l'a divorcé. Et c'est alors que la personne sur qui circulaient les rumeurs l'a épousée. Nous dit la Braïta, loyotsi. Il n'a pas besoin de la divorcer. Héridami, de quel cas on parle? Idoïta Edim, si on parle d'un cas où il y a des témoins qui certifient les rumeurs, qui attachent à faire le kalamayave, ça sert à quoi que Shimon, la troisième personne, s'interpose entre son divorce avec Reuven et son mariage avec son amant? Comment cela la rend permise? Et la lave de le kaedim. Donc n'est-ce pas, on parle du cas où il n'y a pas de témoins. Vetamada attachent à faire le kalamayave, afkinam. Et même sans témoins, ce n'est qu'au cas où la troisième personne, Shimon, s'interpose entre son divorce avec Reuven et son mariage avec son amant, que son amant n'est pas demandé de la divorcer. Mais sinon, sans cette troisième personne, sans Shimon, il aurait dû la divorcer. Même qu'on a prouvé qu'il s'agit du cas où il n'y a pas de témoin qui certifie les rumeurs. Donc cela s'oppose au propos de Rav. Amar le Rav. Rav pourra te répondre. En fait, même s'il n'y a pas de troisième personne, qui avec son mariage s'interpose entre le premier divorce et le mariage de l'amant, quand même, ce n'est qu'au cas où il y a des témoins qui certifient les rumeurs que l'amant devra la divorcer. Sinon, sans témoin, il n'est pas forcé de la divorcer. Alors pourquoi la Braïta parlait du cas où il y a une troisième personne qui s'interpose? V'achika amar, et voici ce que voulait dire la Braïta. De afalgav, de atachev, arsekalakala, le chatrila loiknos. Même au cas où il y a une troisième personne qui s'est interposée, et qui a épousé cette femme après son divorce avec la première personne, et donc cela a interrompu les rumeurs, une fois que lui aussi la divorce, l'amant, c'est-à-dire la personne sur qui circulaient les rumeurs, n'aura pas le droit a priori de l'épouser. Demande la Gemara une nouvelle question sur Rav. Metive, on a vu dans une autre braïta, Bamed varim amorim, she'en labanim. Avalesh labanim no tetse. Quand est-ce qu'on lui a interdit, même a posteriori, de rester mariée à son amant, que si elle n'a pas d'enfant de son premier mariage? Mais si elle en a, alors il lui est permis de rester mariée à son amant. Explique Rashi la différence si elle a eu des enfants de son premier mariage ou pas. Du fait qu'on l'oblige de divorcer de son amant, cela prouve au monde que les rumeurs étaient justes. Et donc, si elle a des enfants, ça va les calomnier. Alors, par égard pour les enfants, on ne va pas faire d'acte qui certifie les rumeurs, et on ferme les yeux sur son mariage avec son amant. Tandis que si elle n'a pas d'enfants, alors il n'y a pas de raison de fermer les yeux, et on l'oblige de divorcer de son amant. Et la braïta continue et dit, et si sont venus des témoins qui ont certifié les rumeurs, et qui ont témoigné qu'effectivement elle a eu des relations avec son amant, alors même si elle a plusieurs enfants de son premier mariage, elle n'a pas le droit de rester mariée à son amant, elle devra divorcer. Donc il en sort que le début de la braïta, qui faisait la différence entre le cas où elle a des enfants et celui où elle n'en a pas, ne parlait que du cas où il n'y a pas de témoin qui certifie les rumeurs. Et quand même on a vu dans cette braïta, au cas où il n'y a pas d'enfant, elle devra oui divorcer. Et donc cela contredit les propos de Rav. Répond la Gemara, étant donné que Rav mukila le matnitim b'yesh labanim, alors v'yesh la edim. Étant donné que Rav expliquait la Mishnah au cas où elle a des enfants de son premier mariage, c'est pour cela que Rav nous enseignait que la Mishnah qui a interdit l'union avec l'amant mais a posteriori, ne parlait qu'au cas où il y a des témoins qui certifient les rumeurs. Demande la Gemara, Umay durke de Rav lukme le matnitim b'yesh labanim v'yesh la edim. V'tama de ike edim afkinan, v'yle ke edim lo mafkinan. Quelle est la raison qui a obligé Rav à expliquer que la Mishnah parle du cas où elle a des enfants de son premier mariage? Et il y a des témoins qui certifient les rumeurs, et ce n'est que à cause de ces témoins que l'union avec l'amant est interdite, a posteriori, sinon elle est permise. Lukma b'shen labanim afalgab de l'ekaedim. Pourquoi il n'a pas expliqué la Mishnah au cas où elle n'a pas d'enfant dans son premier mariage? Et donc même sans témoin qui certifie les rumeurs, elle sera dans l'obligation de se séparer de son amant. Répond Rava, Amar Rava, Matnitim Chite. Sans cette explication, la Mishnah lui paraissait obscure. Mai irie de Tani Hotsiwa, Litne Hotsia. C'est écrit dans la fin de la Mishnah, Hanitan al-Eshetish, Vehotsiwa mitachat yado. Une personne sur laquelle circulaient des rumeurs, qui a fait de l'adultère avec une certaine femme, et alors on a fait divorcer cette femme de son mari, etc. à la fin de la Mishnah. Alors Rava ne comprenait pas pourquoi c'est écrit Hotsiwa. On a fait divorcer de son mari. Il aurait fallu écrire Votia, et son mari l'a divorcé. Qu'est-ce que ça veut dire on l'a fait divorcer? Et la kol otsiwa bebedin. Chaque fois que le Tana a employé le terme otsiwa, on l'a fait divorcer, cela se rapporte sur le tribunal. C'est le tribunal qui a exigé le divorce. Ou bedin, bedim ou de mafke. Et en effet, quand c'est le tribunal qui exige le divorce, c'est parce qu'il y a des témoins qui témoignent l'adultère. Donc, à cause du mot otsiwa, on l'a fait divorcer. Rav a dû expliquer la Mishnah au cas où elle a des enfants de son premier mariage. Et c'est pour cela que Rav disait que ce n'est que à cause des témoins qu'elle est forcée, même a posteriori, de se séparer de son amant. Veibaitema, hani matnaita rebi'i. Et si tu préfères une autre réponse, je peux te dire qu'en effet, d'après Rav, même dans le cas où elle n'a pas eu d'enfants de son premier mariage, quand même s'il n'y a pas de témoins qui certifient les rumeurs de l'adultère, elle peut rester mariée à son amant. Et la braïta précédente, d'où on a prouvé qu'elle ne peut pas, n'était pas une opinion générale, mais que l'opinion de Rebi, de Tania, comme on l'a vu dans une autre braïta. Rochel Yotse Veisha Chogeret Besinar. Le mari qui rentre chez lui et qui voit un colporteur sortir de chez lui. Et sa femme se rhabiller. Apparemment, elle s'est déshabillée pour le colporteur. Amar Rebi, Ho'il Mokhor Adava, Tetse. Nous dit Rebi, en effet, étant donné que la chose est laide, apparemment elle a fauté, son mari devra la divorcer. Rok le Malaminakila. Il s'agit maintenant d'un autre cas. Le mari rentre chez lui et voit le colporteur sortir, et sa femme est habillée normalement, mais le mari remarque qu'au-dessus du lit conjugal, sur le rideau du lit, il y a de la salive, des postillons. Ça lui paraît récent. Et pour postillonner à cet endroit, il faut premièrement être couché sur le dos, et deuxièmement avoir une raison de postillonner. Alors il y a lieu à supposer que c'est sa femme qui était couchée sur le dos, et a postillonné dans un moment d'excitation. Donc, elle a fauté. Alors, la même chose, Amar Rebi, Ho'il Mukhor Adavar Tetse. Étant donné que la chose est laide, son mari est prié de la divorcer.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.